Bonjour, au microphone Raymond Bourgeon-Champagne, c'est Rencontres spirituelles. Et aujourd'hui, nous allons parler de différents personnages. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas parler de tous les gens que l'Église célèbre aujourd'hui qui ont été canonisés, qui sont des saints, sans compter d'autres personnages remarquables qui ne sont pas encore canonisés, mais dont j'aimerais vous faire part de quelques éléments de leur vie. Tout d'abord, je vous signale qu'aujourd'hui, on célèbre deux martyrs en Europe centrale, mais je n'en parlerai pas parce que c'est un peu compliqué. Ils ont été tués dans des persécutions qui ont eu lieu l'un au 14e siècle et l'autre au 17e siècle. C'est Jean Nepomucène qui, en dépit de ce nom curieux, Nepomucène, était un homme absolument remarquable. C'est un grand martyr. Et André Bobola, qui est mort lui au 17e siècle, qui était un jésuite polonais. Mais nous pourrons en parler une autre fois, et je voudrais surtout aujourd'hui vous entretenir de quelqu'un d'absolument remarquable, qui est Saint Simon Stock. Saint Simon Stock, qui est un carme. Or, les carmes viennent de s'installer à Montréal. Ils étaient autrefois à Nicolet, mais malheureusement, ils nous avaient quittés. Ils sont de retour. Ils sont sur la rue Hamel, dans un ancien couvent des Petites Sœurs de l'Assomption. C'est tout près du métro Henri Bourassa. Et c'est merveilleux que d'avoir des carmes dans sa ville. Avoir des carmes, c'est avoir un centre, en général, qui est un centre de prière, de réflexion spirituelle, un centre qui nous permet vraiment, à nous les laïcs et aussi aux clergés, de prendre un meilleur contact avec les valeurs de l'Église. Car les carmes, au cours des siècles, ont développé une spiritualité qui est absolument remarquable. On le sait tous, parmi les plus grands mystiques de l'histoire de l'Église, on compte des carmes et des carmélites, comme Saint Jean de la Croix, qui est peut-être le plus grand mystique de toute l'histoire de l'Église, de même que Sainte Thérèse d'Avila. Mais on peut parler aussi, évidemment, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont il a été question à Radio Ville-Marie hier. On a lu une très belle lettre qu'elle avait adressée à sa sœur aînée. Et aussi, sœur Élisabeth de la Trinité, qui a été canonisée, qui est une femme absolument étonnante, il faut la connaître, qui est morte au cours de ce siècle, Élisabeth de la Trinité, carmélite. Il y a évidemment des carmélites à Montréal. Il y en a plusieurs autres couvents à travers le Québec, mais en particulier les carmélites à Montréal, je vous le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, elles sont rue du Carmel, ce qui ne veut pas dire grand-chose peut-être pour la plupart des gens. C'est une toute petite rue. Mais on la trouve quand on monte la rue Saint-Denis à partir de la sortie du métro Laurier, sortie nord. On se rend rue Saint-Denis, on monte et à gauche, tout à coup, on voit rue du Carmel. Se rendre là, assister aux offices, assister à la messe, rencontrer les sœurs qu'on dit tourières. Elles s'occupent du tour, c'est-à-dire qu'elles s'occupent des rapports avec l'extérieur. Ce sont des sœurs qui se consacrent comme ça en dehors du cloître et qui sont carmélites. On peut les rencontrer donc, et puis on rencontre Dieu quand on les rencontre. Ce sont des femmes merveilleuses. Donc, aujourd'hui, Saint Simon Stock, étrange nom, Stock, qui veut dire simplement tronc en anglais, dans l'ancien anglais. Il a vécu il y a déjà de nombreux siècles. Il a vécu au 12e siècle. Mais qui est-il, ce Saint-Simon Stock? C'est quelqu'un dont on parlait beaucoup plus autrefois, peut-être, parce que c'est lui qui aurait reçu de la Vierge elle-même le scapulaire. C'était très populaire autrefois, le scapulaire. Je me souviens dans mon jeune temps que de recevoir un scapulaire, porter le scapulaire, c'était quelque chose que l'on considérait un peu comme un bouclier pour se défendre contre différentes tentations, contre le démon, etc. Mais je crois que porter aujourd'hui le scapulaire, ça pourrait vouloir dire aussi porter, comme on disait, une livrée, c'est-à-dire porter un signe d'un costume, d'une façon de se vêtir qui indique notre consécration intérieure. Évidemment qu'on le porte à l'intérieur, personne ne le sait, mais nous, on le sait quand on le porte, et on peut le porter avec beaucoup de fierté. Donc, Simon Stock est entré chez les carmes, c'est-à-dire qu'avant d'entrer chez les carmes, il a établi une petite communauté en Angleterre après avoir vécu dans des pénitences typiques de cette époque. Des pénitences qui n'ont, pour ainsi dire, presque plus de sens aujourd'hui, puisqu'il vivait dans le creux d'un arbre, d'où il a pris le surnom de Stock. Stock qui veut dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tronc d'arbre, dans la langue anglaise autrefois. Alors on ne peut pas imaginer quelles furent les rigueurs qu'il a pratiquées dans sa solitude. On dit que toute sa nourriture consistait en des herbes crues, puis des racines, des pommes sauvages, un peu d'eau claire, et puis on disait que parfois certaines personnes ou même des chiens lui apportaient un peu de pain. Enfin, ça touche au mythe, mais je crois qu'il y a là, derrière ça, quelque chose d'une saine tradition dans un sens. Ça nous rappelle, au fond, par ses excès peut-être, le besoin d'esprit de pauvreté que nous devrions tous avoir si on cherche Dieu du fond de son cœur. Et je crois que l'esprit de pauvreté, qui est bien oublié de nos jours, peut nous être rappelé par Saint-Simon Stock, qui a vécu comme ça, ce qui lui a permis vraiment de se débarrasser de tout ce qui n'était pas Dieu en lui, peut-être. Enfin, du moins, de pouvoir soutenir du fond de son cœur un soupir constant vers Dieu et un esprit de contemplation qui était, paraît-il, à nul autre pareil à cette époque en Angleterre. Si bien que les gens venaient de toutes parts pour lui rendre hommage, pour trouver auprès de lui un supplément d'âme, comme on dit aujourd'hui. Un supplément d'âme, on en a bien besoin de nos jours. Alors donc, Saint-Simon Stock s'est souvenu des avertissements que lui avait donnés la Sainte Vierge alors qu'elle lui était apparue et qu'il est sorti du tronc dans lequel il habitait, dit-on. Et il est allé trouver des religieux pour être reçu dans leur ordre. Ces religieux étaient des carmes qui arrivaient de Terre Sainte, du Mont Carmel, en Angleterre. C'était vers le commencement du XIIIe siècle, vers 1220. Et il a fait des vœux, ces vœux qu'on appelle des vœux solennels, n'est-ce pas? Et on a reconnu chez lui, dès le départ, des vertus, des talents, un esprit extraordinaire. Il fut envoyé à l'université de Oxford, ou l'université d'Oxford, qui était déjà très réputée, pour y faire des études en théologie. Alors, il n'avait, comme on dit dans certains textes de l'époque, il n'avait eu pour maître que les chênes et les ormeaux. J'aime bien ça, au fond. Avoir comme maître la beauté de la nature, la grandeur des arbres qui s'élèvent, le bois, les animaux. Ça nous rappelle un peu la spiritualité de nos Amérindiens qui puisent dans la nature, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs quand on aime aller à la campagne, on puise dans la nature quelque chose qu'on ne trouve pas facilement dans nos villes. Et alors, Simon Stock a démontré dès le début de sa vie religieuse une intelligence au-dessus de la moyenne, si bien qu'on dit qu'il était plus savant que ses professeurs. Il faut se rappeler ce texte de l'Ancien Testament. Hein. « J'ai mieux compris vos vérités que mes maîtres, parce que j'ai tâché d'observer vos commandements. » L'observation des commandements de Dieu, c'est-à-dire ses conseils profonds de bonheur, des conseils sans lesquels on ne peut atteindre au bonheur. On les appelle des commandements. Je crois que c'est un mot juste, mais en même temps, si on les entend comme des conseils de bonheur absolu, hein, si on ne suit pas ces conseils de Dieu, on ne trouve pas le bonheur. Et lui, en suivant ses commandements, a su comprendre, avec plus de facilité que ses professeurs, l'essentiel de l'enseignement qu'on donnait en théologie à Oxford. Alors, devenu absolument étonnant parmi tous les siens en Angleterre, on l'a remarqué chez lui une profonde humilité. Et c'est curieux, comme chez tous les saints, on retrouve cette vertu d'humilité. Cette connaissance profonde qu'on pourrait dire en cette fin du XXe siècle, que le cerveau dont nous nous servons est un amalgame étonnant de neurones, de synapses, une organisation phénoménale, et c'est pas nous qui l'avons organisé. C'est Dieu qui fait ces choses. Et si Dieu nous a donné un cerveau meilleur que d'autres, ça ne veut rien dire, hein, si ce n'est qu'il doit être mis au service de Dieu. et au service de nos frères, de nos sœurs, au service du pays dans lequel nous vivons. Alors les supérieurs de Saint-Simon Stock, je vous le rappelle, qui étaient carmes, ont été contraints de lui faire un commandement, de l'obliger à obtenir des degrés de théologie. Il n'en voulait pas à l'université. Et il a donc accepté, afin de travailler plus efficacement, disait-il, au salut des âmes, justement. Il comprenait dans son humilité qu'il devait être au service des autres. Alors, il n'est pas facile d'écrire tous les fruits qui sortirent de cet homme absolument phénoménal quand il a exercé son enseignement et aussi quand il s'est mis à prêcher. Il a converti tellement de gens en Angleterre qu'on a réclamé de lui qu'il écrive des traités. Il a écrit d'ailleurs des traités fort savants, pleins d'érudition, que l'on peut retrouver dans des bibliothèques savantes aujourd'hui. Et il en a écrit un que j'aime beaucoup sur la patience chrétienne. Cette patience chrétienne, on la retrouve chez bien des saints, on la retrouve même chez le pape actuel. Quand on pense qu'au lieu de s'irriter contre son assassin il y a un peu plus de 10 ans, il a su avec patience, tout de suite, alors qu'on le transportait à l'hôpital, il a su pardonner à cet homme qu'il ne connaissait même pas. Et rendu en prison lorsqu'il l'a visité, il a su l'embrasser et, dans sa patience, reconnaître chez cet homme ce qu'il y avait de bon. Il a fait de nombreux discours en l'honneur de la Sainte Vierge, car il avait une énorme dévotion à la Vierge. Et il a confirmé l'établissement de son ordre, et il est allé à Rome, d'ailleurs. Quand on pense à des voyages au début du XIIIe siècle, quelqu'un qui part de l'Angleterre, qui traverse la Manche, qui traverse la France, traverse les Alpes, se rend en Italie et descend vers Rome, tout ça se faisait pour ainsi dire à pied, mais c'est épouvantable. Pour établir son ordre, il avait des oppositions. Pour l'établir en Angleterre, il y avait des oppositions, parce qu'on considérait que cet ordre ne devait exister qu'en Orient. Alors, avec, dit-il, l'aide de la Vierge, il a réussi à convaincre le pape de l'aider. Et il a composé des cantiques magnifiques en l'honneur de la Vierge. En voici un extrait, belle et agréable fleur du Mont Carmel, vigne qui avait porté une fleur sacrée, c'est-à-dire le Christ, évidemment, astre brillant du ciel, étoile de la mer, Vierge et mère très débonnaire, faites présent de quelques nouvelles faveurs à l'ordre du Mont Carmel que vous avez choisi. Je vous rappelle, l'ordre du Mont Carmel, c'est l'ordre des Carmes et des Carmélites. Et alors, ce cantique, dit-on, a été bien reçu par la Vierge. Alors, elle lui a accordé une dernière faveur. Elle lui est apparue, dit-on, éclatante de lumière, accompagnée d'un grand nombre d'anges et de saints. Elle lui aurait donné de sa main propre un scapulaire, c'est-à-dire c'est ce tissu que les religieux portent, n'est-ce pas, par devant et derrière, au-dessus de leur tunique, et auquel est attaché un capuchon en général. Et alors, elle lui aurait dit, « Reçois, mon fils, ce scapulaire comme le signe d'une étroite alliance avec moi. Je te le donne pour l'habit de ton ordre. Ce sera pour toi et pour tous les Carmes un excellent privilège. Et celui qui le portera ne souffrira jamais l'embrasement éternel, c'est-à-dire l'enfer. C'est la marque de salut dans les dangers et de l'heureuse possession de cette vie qui n'aura jamais de fin. » Je reviens sur le mot « l'embrasement éternel » pour décrire l'enfer. On dit que souvent l'enfer, ce n'est pas du feu. Ce serait l'état dans lequel une âme, ayant aperçu Dieu dans sa splendeur, sa beauté, sa tendresse, son amour, et n'ayant pas su répondre à cet amour alors qu'il le savait et qu'il le connaissait, serait réduit, éloigné de Dieu, à ne plus être que brûlé d'un désir qui ne peut plus être assouvi. Ce serait ça, l'enfer. Ce serait terrible parce que d'aimer, on le sait, d'aimer quelqu'un qui nous échappe, et d'aimer un être humain qui disparaît, on brûle d'un amour ou d'une tendresse qui fait souffrir et qui brûle à l'intérieur de la poitrine. Imaginez alors celui qui a aperçu Dieu, qui l'a vu, qui a été embrasé de son amour, ne serait-ce que quelques instants. Et tout à coup, tout ça disparaît, et son désir ne peut plus être assouvi. Alors Simon Stock, ayant reçu le scapulaire, a exprimé sa joie, et alors à ses frères, puis à ses disciples, mais il a voulu aussi communiquer ça aux gens dans le monde. Et Dieu a fait naître une occasion très favorable en la personne d'un Anglais assez cultivé, assez renseigné, mais qui était fort débauché, qui était un impie, disons, et qui s'adonnait au libertinage. Il s'était battu en duel contre un autre homme de la même condition, puis avait été blessé à mort. Et Simon Stock, le père Simon Stock, ayant entendu parler de ça, courut auprès de lui avec un autre religieux, mais il l'a trouvé, ce malheureux homme, écumant de fureur, dit-on. Il se roulait, les yeux étaient fous de rage. Il ne voulait rien entendre de Dieu ni des saints. Mais il a perdu même l'usage de ses sens au milieu de ses blasphèmes, dit-on, et l'on n'entendait plus de lui que le dernier soupir qui devait jeter son âme, dit-on, dans les enfers, comme on parle souvent dans ces vies, n'est-ce pas? Et alors, Simon Stock ne s'est pas troublé. Il s'est approché, fait un signe de croix au-dessus de son corps, l'a revêtu du scapulaire que la Sainte Vierge lui avait donné, et on dit qu'il a demandé à Dieu la grâce, le pardon pour lui. On voit ça dans certaines vies de saints, et je pense, mon père n'était pas mauvais, moi, mon père était simplement un peu impie. Il n'aimait pas tellement les choses spirituelles. Et entre elle, hôtel Dieu, une religieuse lui avait demandé si elle ne devait pas enlever le crucifix qu'il avait devant lui, de crainte que ça ne lui déplaise, car j'avais averti la sœur que ça pourrait lui déplaire. Il avait dit non, il avait accepté le crucifix. En acceptant le crucifix, il s'est converti. Et il est devenu, lui qui ne communiait à peu près jamais, il demandait, réclamait les derniers jours de sa vie, la communion quotidienne à l'hôtel Dieu. Mon père est mort très, très croyant, demandant à la Vierge de venir le chercher. Ce qui m'étonnait, moi, il me disait, « Demande à ta Sainte Vierge de venir me chercher. » Tellement il avait gardé son vocabulaire d'autrefois en disant « Ton pape, ta Sainte Vierge, ton Église. » Mais il disait ça sans méchanceté, parce que mon père était très bon, au fond. Alors, il y a comme ça des conversions de gens qui se font au dernier moment. Et c'est ce qui est arrivé, hein, chose étonnante. Ce gentilhomme, au moment de la fin de la prière de Saint-Simon Stock, a repris ses forces. Il a recouvré ses sens avec la parole. Il a commencé à renoncer au mal, à détester ses crimes, dit-on. Il s'est confessé, il a reçu les sacrements de l'Église et toutes les marques d'une parfaite contrition, comme mon père. Et après sa mort, il a donné les assurances de son salut à un de ses frères qui était prêtre dans une église à Lincoln, en Angleterre. Et son frère a douté de cette apparition, de cette révélation, se demandant ce qui se passait. Mais on parle encore de nos jours, hein, de l'apparition de certains morts qui viennent nous révéler des choses. C'est ce qu'on dit dans certains livres de nos jours. On en doute ici, on y croit là. Pourquoi pas? Ce serait peut-être possible, après tout. Et alors, ce miracle qui s'était déroulé a fait du bruit dans toute l'Angleterre et s'est passé dans les pays voisins. C'est comme ça que la dévotion au Saint-Scapulaire de la Vierge, dit-on, s'est répandue, pas seulement parmi, comme on dit, le simple peuple, mais aussi chez les rois, les princes, les savants. Saint-Louis, roi de France, s'en est revêtu. Son épouse, Marguerite de Provence aussi, toute la famille royale. Édouard, roi d'Angleterre, le roi d'Écosse, le bienheureux Henri, duc de Lancastre, et la bienheureuse Angèle, qui était fille du roi de Bohême aussi, elle qui est entrée, n'est-ce pas, chez les Carmélites, finalement. Mais en tous les cas, Simon n'a pas travaillé seulement pour son ordre, il a travaillé pour toute l'Église. Au Concile général de Lyon, sous le pape Innocent IV, Il a parlé en faveur de la paix, contre les divisions qui agitaient et troublaient toute l'Église à ce moment-là. C'était tragique au XIIIe siècle. Et comme de son temps, il s'était publié en France, particulièrement à Paris, une doctrine qui parlait contre la grâce de Dieu, contre les facultés savantes qui étaient accordées aux religieux mendiants, c'est-à-dire aux franciscains et aux dominicains. Eh bien, cet homme, qui était fort zélé pour la gloire de l'Église, la gloire de Dieu, a ordonné des prières générales dans tout l'ordre des Carmes, qu'ils étaient très, très nombreux, hein, beaucoup plus nombreux qu'on pense. Ils étaient des milliers à l'époque, des milliers, des dizaines de milliers même. En peu de temps, ils se sont répandus partout. Et c'est le 16 mai de l'an 1265, dans la 15e année de son généralat, il était général de l'ordre, et qu'il est mort. Et on dit qu'il serait mort après de l'âge de 100 ans. Simplement 13 ans après sa mort, le pape Nicolas III l'a déclaré bienheureux et a donné la permission au Carme de l'honorer, et il fut canonisé beaucoup plus tard. J'aimerais maintenant vous dire un mot, bref, de Saint Pérégrin. On entend ce nom parfois, Saint Pérégrin, mais qui était-il? Il était évêque d'Auxerre. Auxerre, disons dans le centre-est de la France. Ce n'est pas très loin d'une abbaye très réputée, l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Ce n'est pas tellement loin non plus de Thésée, le fameux monastère protestant de Thésée. Donc, il a été évêque d'Auxerre, mais il y a très, très longtemps. Il est même considéré, jusqu'à un certain point, comme l'un des grands évangélisateurs de nos ancêtres les Gaulois. Mais nos ancêtres les Gaulois, ce ne sont pas les ancêtres de tous les Québécois maintenant, n'est-ce pas? Nous avons des ancêtres de bien d'autres pays maintenant, les Québécois. Je travaille présentement, d'ailleurs, avec quelqu'un qui n'est pas d'origine française. Et alors, donc, Pérégrin a été consacré évêque par le pape Sixte Ier, parti de Rome. Il s'est rendu à Marseille, à Lyon, à Auxerre, et disons rapidement que là, il a osé prêcher en plein milieu d'une foule de gens qui n'étaient loin d'être chrétiens, qui honoraient toutes sortes de dieux, qui avaient des cultes curieux, et révoltés devant les affirmations de Pérégrin, il fut lapidé, jeté en prison, finalement jugé, fouetté avec des nerfs de bœuf, des cordes plombées et ferrées. Des cordes plombées et ferrées, ça rappelle quelque chose? Le Christ lui-même a subi cette torture à Jérusalem, n'est-ce pas? En l'an 30, le 7 avril, dit-on, de l'an 30, dans la nuit du 6 au 7, lorsqu'il fut flagellé, avec des cordes plombées, c'est-à-dire des plombs, des petites haltères au bout des cordes. Et finalement, il a eu la tête tranchée par l'épée, ce Saint Pérégrin, le 16 mai. Son corps a été enseveli secrètement et finalement transféré dans l'illustre abbaye Saint-Denis. On peut aller visiter ça, l'abbaye de Saint-Denis en banlieue de Paris, très réputée, un monument magnifique d'architecture. Et c'est là que Saint Pérégrin a été enseveli. C'est donc un ancêtre, dans la foi, de tous les Québécois d'origine française. On peut lui rendre hommage aujourd'hui. Il est mort, donc, je le rappelle, un 16 mai. Et on peut parler d'un autre évêque. On n'en a que pour les évêques aujourd'hui, d'ailleurs. C'est plein d'évêques aujourd'hui. Des évêques remarquables. Des pasteurs qui ont donné leur vie pour rendre l'Église plus vivante. C'est un évêque italien, Saint-Ubaldo, Ubaldo. Il est né à Gubbio, ça vous rappelle quelque chose, Gubbio? Mais oui, le loup de Gubbio, le fameux loup de Saint-François d'Assise. Il est mort, Saint-Ubalde, en 1160. Il était jeune, très jeune, quand son père l'a conduit dans une église où il devait servir aux fonctions du culte, où il devait s'instruire. Et finalement, quand il a quitté cette église où les prêtres l'ont instruit, Il a manqué de zèle. Il est allé dans un autre endroit, à Saint-Segond. Et puis, à cet endroit, on lui a offert sa part d'héritage, car son père était assez riche. On lui a offert de se marier. Mais il a refusé finalement. Il y a eu un retournement à l'intérieur de lui. Il a préféré être ordonné prêtre. Et l'évêque l'a nommé aussitôt prieur du chapitre de la paroisse où il avait reçu sa formation. Qu'est-ce que ça veut dire, prieur du chapitre? Ça veut dire prieur de ces prêtres que l'on appelle des chanoines, c'est-à-dire, ça vient du latin, canonicus, ça veut dire ceux qui récitent les heures canoniales, c'est-à-dire les heures, c'est-à-dire des prières à différentes heures, qui sont établies d'après des lois, un canon, comme on appelait ça. Donc, on ne dit pas des... en anglais, on dit canon, hein? Mais en français, on dit chanoine. Donc, les chanoines, on envoie dans le cœur de la cathédrale Notre-Dame à Paris. On en voit aussi à Londres, à Montréal, c'est disparu. Il y a des chanoines, mais on ne les voit pas au cœur priant à différentes heures du jour. Donc, il y en a peut-être à Québec. Je crois j'en ai déjà vu à Québec, à la basilique cathédrale de Québec. Alors, les chanoines de cette église avaient vraiment perdu l'esprit de leur état. On sonnait les cloches pour qu'ils se rendent dresser l'office, mais chacun restait, dit-on, chez soi, à manger ou à dormir. En somme, on sonnait des cloches par acquis de conscience, comme ça. C'était un vestige du passé. Il n'y avait pas d'office. Le cloître, parce qu'il y avait des cloîtres dans les cathédrales dans ce temps-là où les chanoines vivaient. Ils étaient un peu comme des religieux, plus ou moins cloîtrés. Et ça restait ouvert, n'importe qui rentrait là-dedans. Alors, Ubald était terrifié devant tout ça. Il a décidé de faire une réforme. Alors, il y avait trois chanoines qui avaient le même zèle que lui. Alors, il est parti avec eux, il est entré pendant quelque temps chez des chanoines réguliers. C'est-à-dire, ça, c'est des chanoines qui vivaient comme des moines, comme des vrais moines. Hein? On les appelle des chanoines réguliers. Je vous rappelle que Luther était, en somme, régulier, comme ça. En 1126, c'est-à-dire, disons, un peu plus de 30 ans avant sa mort, le clergé de Pérouse l'a choisi pour évêque, voyant qu'il avait un esprit de réforme. Et il s'est enfui à Goubillot, voyant ça. Il s'est rendu même auprès du pape pour le supplier de ne pas faire de lui un évêque. Alors le pape s'est laissé fléchir, mais plus tard, il a été nommé évêque dans un autre endroit. Et là, il est obligé d'accepter. Là où il était... Il y avait un entrepreneur qui était chargé de la réfection des murs de la ville. Et puis, des maçons avaient commis des dégâts dans une vigne voisine du chantier. Et l'entrepreneur s'est mis en colère contre son évêque, qui lui faisait délicatement un certain reproche. Et l'entrepreneur a poussé l'évêque, Ubald, dans le mortier frais, imaginez. Alors, ce pauvre évêque s'est relevé et n'a rien dit. Il est entré à son évêché comme si rien n'était. Alors, les habitants, ayant eu connaissance de ça, étaient révoltés, voulaient se venger contre l'entrepreneur. Ils ont exigé que l'évêque bannisse le coupable de la ville. N'est-ce pas? Dans les villes, autrefois, il y avait de ces murs. Hein? On bannissait en dehors des murs de la ville. Hein? On voulait aussi que l'évêque confisque ses biens. Alors, apprenant l'arrestation de son agresseur, Ubald l'a appelé et pour comparaître devant son petit tribunal. Et là, on a amené le coupable qui se disait prêt à accepter n'importe quelle peine. Il était plein de regrets. Et l'évêque s'est élevé de son siège et s'est approché de lui, lui a dit « Mais alors, donne-moi le baiser de paix et que le Seigneur Tout-Puissant te remette cela. » Et tout est péché. Est-ce que ça ne rappelle pas cette photo qu'on a vue du pape embrassant Ali Atcha, son assassin, n'est-ce pas? Il y a plus de 10 ans, on en parlait tout à l'heure. C'est la même scène, au fond. C'est la même chose qui se répète à travers les siècles, où l'amour prime sur la vengeance et la colère, où le pardon habite le cœur des saints. Le pardon qui dépasse tout entendement, on se dit, je me souviens quand le pape a pardonné à son assassin, on entendait même à la radio, mais ça se fait pas. Ça dépasse tout entendement. Vous souvenez-vous de ses parents dont la petite fille avait été jetée en bas du pont, elle était jetée dans le fleuve Saint-Laurent, alors qu'elle revenait de la ronde avec son petit ami. Oh, un petit ami, pas rien de plus qu'un ami, un voisin. Et tous les deux, n'est-ce pas, avaient été jetés dans le fleuve. Et les parents n'en ont pas voulu vraiment aux deux jeunes gens qui avaient fait ça. Leur ont pardonné du fond du cœur le jour même, sans savoir qui ils étaient. Ils sont même allés voir en prison, à l'autre bout du Québec. Ils sont allés voir les coupables. Et on a pu voir à la télévision, n'est-ce pas, la scène où l'un des deux prisonniers se jette dans les bras des parents de la jeune fille qu'il avait tuée et pleure à gros sanglots et se sent pardonné. Je ne sais pas s'il s'est senti vraiment jusqu'au fond de son cœur libéré. La libération ne vient que de Dieu, mais déjà la porte était ouverte par les parents. Et quand ce film est passé à l'écran, ça s'appelle Le Pardon, ça fait le tour du monde, ce film québécois, hein? Ça fait le tour du monde. Beaucoup de gens se disaient, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, dans le film, on voyait le père du jeune garçon, qui était un homme fort digne et fort bien, un excellent jardinier d'ailleurs, qui n'arrivait pas, lui, à pardonner aux assassins de son fils. Il disait que ça le dépassait. Il n'y arrivait pas. C'est une grâce rare, mais c'est une grâce, c'est-à-dire c'est une action de l'Esprit Saint au fond du cœur. Et alors, un jour, Ubald, cet évêque, voyant qu'il y avait une espèce de révolution dans la ville, où les deux partis qui se battaient à coups de projectiles d'épées risquaient de s'entretuer vraiment, alors il s'est jeté à travers les armes et tout, et il a fait semblant d'être atteint. Il s'est laissé tomber par terre, ce qui a arrêté tout le combat, et alors les gens se sont convertis, voyant leur évêque se redresser, leur disant, le sourire aux lèvres, qu'il devait s'aimer. Et finalement, bien durant les dernières années, Ubald a eu beaucoup à souffrir. Et c'est curieux parce qu'on dirait qu'il manquait de calcium ou je ne sais quoi. Il s'est cassé la jambe deux fois, ainsi que le bras droit. Et lui qui compatissait tellement aux souffrances des malades, il avait tellement souvent demandé à Dieu de faire des miracles pour les guérir, bien, il a montré la plus grande patience à supporter ses propres maux, dit-on. Ça nous rappelle la patience qu'il faut avoir hein, quand on souffre de vieillesse, quand nos membres ne nous obéissent plus. Il est mort, entouré, dit-on, de son peuple, qui le pleurait tellement on l'aimait. Et il est mort durant la nuit qui suivait la Pentecôte, le 16 mai 1160. Il a été canonisé 32 ans plus tard seulement par le pape Célestin III. Je voudrais maintenant vous parler de Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des écoles chrétiennes auxquelles le Québec doit tant. Je voudrais vous parler de quelqu'un qu'on appelle un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un vénérable, quelqu'un qui sera béatifié, je l'espère, bientôt, et dont la photo, quand on la regarde, nous parle. C'est le frère Théophanius Léo. Qui était ce frère Théophanius? C'était vraiment, je crois, un saint. Il a vécu au Mont-la-Salle, ici, tout près, à Laval. C'est un saint qui a vécu à Laval. Il est né à Nicolet. Et comme je l'ai dit hier, il est né dans une famille d'artistes et de chrétiens. Il a reçu une excellente éducation de la part de ses parents. Et il y avait dans la famille la prière en famille, comme on faisait autrefois la lecture des vies des saints. C'était de rigueur dans son foyer. Dieu occupait dans son foyer la première place. Dieu était dans les esprits, les cœurs, les conversations, les projets. Sa mère, d'ailleurs, était profondément croyante, était très bonne, elle était écossaise. Mais son père, qui aussi était croyant, était un homme un peu violent, un peu audacieux. Et sa mère est morte prématurément. Son père a bien élevé ses enfants quand même, car le frère Théophanius, qui s'appelait Adolphe de son prénom, de baptême, avait un frère prêtre, séculier, un autre, Oblat de Marie Immaculée. Il y avait un autre frère qui a fondé un foyer et une sœur qui a épousé un médecin. Adolphe avait 9 ans, donc quand il a perdu sa mère. Et il fréquentait le séminaire de Nicolet. On l'a mis en pension ensuite chez les frères des écoles chrétiennes, à la baie du Fèvre, à Yamachiche. Et il lui arrivait, à cause du tempérament hérité de son père, n'est-ce pas, d'avoir, durant la récréation, parfois des accès de colère. Il avait même des arguments assez frappants, parfois. C'était une vivacité de caractère. Il a essayé de le réformer, puis il y est parvenu. Alors, il est entré au noviciat des frères des écoles chrétiennes le 6 février 1884. Il est entré à Montréal, dans le noviciat. Une intelligence claire, un cœur riche. Et tout de suite, il a embrassé, on peut dire, la règle. Il a cherché vraiment à l'observer. Il a pris l'habit en 1887, cet habit qu'on voyait souvent dans nos rues autrefois. Cette magnifique soutane ample des frères des écoles chrétiennes avec ce magnifique et beau rabat blanc qu'on voit encore sur des photos du frère Marie-Victorin. Et alors, il était chargé de classe à Saint-Jean-d'Iberville, à Saint-Jean-Baptiste de Québec, et il a été nommé sous-directeur du petit noviciat, c'est-à-dire on acceptait des enfants assez jeunes au petit noviciat. C'était la coutume encore à l'époque. Et plus tard, il est allé au noviciat, il était un excellent catéchiste. Il parlait surtout, et j'aime bien ça, de la miséricorde de Dieu, de l'amour du cœur de Jésus. Il aimait aussi parler de la dévotion à la Vierge. Il disait, « Allons avec confiance au trône de la miséricorde de Dieu. Quand une mère pourrait délaisser son enfant, moi, je ne l'oublierai pas. » Ce sont des paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. « Quand une mère pourrait peut-être délaisser son enfant, moi, je ne l'oublierai pas. » Dieu nous aime d'un amour total. Il parlait aussi beaucoup, à l'époque c'était rare, des dons du Saint-Esprit. Mais il revenait aussi beaucoup sur la dévotion au Sacré-Cœur. Et le 22 janvier 1904, il a été nommé directeur de la communauté des frères des écoles chrétiennes à la Chine. Et 3 ans plus tard, il est transféré à Sainte-Cunégonde de Montréal. Et le curé était émerveillé. « Que les frères vont être heureux avec un saint si aimable à leur tête, » disait-il. Mais il a souffert de 3 maladies, selon les médecins, toutes mortelles, 3 mois après son arrivée à Sainte-Cunégonde, donc en juillet 1907. Mais il fut guéri, à l'étonnement général, et il fut nommé donc sous-directeur du noviciat, et puis finalement directeur du noviciat le 20 août 1912. Il était maître des novices, finalement. Maître des novices. Il disait, « Un novice est un soldat qui entre au service de Jésus, un futur sauveur d'âme, s'il a au cœur l'amour de Jésus, s'il sait prendre de l'affection pour l'humilité, la pauvreté, et aussi pour les souffrances. » Il disait de ses novices, « Ils sont les temples du Saint-Esprit et que de belles choses il fait en eux. Ma mission est d'aider cet enfant qui se présente à moi, ce novice qui doit se former lui-même. Je suis ici pour lui montrer d'abord comment faire. Et mon art est de l'amener à agir de lui-même sans aide aussitôt que possible. L'art d'un formateur est de se rendre inutile. » J'aime bien ça. « L'art d'un formateur est de se rendre inutile. » Ces conférences étaient tellement suivies avec joie par ces novices que l'un disait, « Depuis que je l'entends, j'arrive à comprendre un peu comment les foules pouvaient rester des heures entières à écouter notre Seigneur. » Les sujets sur lesquels il revenait volontiers, mais c'était l'usage des paroles de la Sainte Écriture. Il parlait de la Bible. Il fallait lire les Écritures, disait-il, pour acquérir l'esprit de foi. C'est au début du siècle, ça. Au début du siècle, on prétend que, mon Dieu, on refusait aux chrétiens catholiques de lire la Bible. Mais pourtant, voilà un frère qui, maître des novices, enseignait ça à ses novices. Il parlait beaucoup aussi de l'Eucharistie comme centre de vie. La dévotion à Marie, toujours. La nécessité d'acquérir des manières modestes et religieuses et de faire de la politesse, disait-il, une des formes de l'humilité religieuse. Et en décembre 1923, il a été chargé d'une responsabilité énorme. Il est devenu visiteur général. Il a succédé au frère Edward of Mary. Et chaque année, donc, il devait visiter toutes les maisons de formation du Canada, des États-Unis, des courses immenses à travers tout le continent, d'un océan à l'autre, hein, sous des altitudes, des climats très divers. Et ça a affecté ses poumons, ça l'a rendu malade petit à petit. Et toujours, il faisait des conférences lumineuses et convaincues quand il visitait ses maisons. La pauvreté resplendissait dans ses vêtements. Il faisait raccommoder jusqu'à totale usure et dans... Puis sa cellule était toujours modestement meublée. Selon les termes de la règle, on dit qu'il fait éclater en lui la chasteté par-dessus toutes les autres vertus. On respirait, dit-on, comme une atmosphère de pureté en l'approchant. C'était la conquête de son esprit de pénitence, de son éloignement du monde et de son intense vie intérieure. Et dans ses conversations, il évitait tout ce qui aurait pu laisser la moindre estime de sa personne. Il faut souvent revenir sur cette idée et me faire une conviction profonde, disait-il, que je suis bien peu de chose. À mon âge, il sied de constater ma médiocrité, et plus je vieillis, plus je dois me dire que mon salut est dans l'humilité, que je dois vivre à l'ombre de l'obéissance. Dans une de ses visites, il a rencontré un prêtre dont les manières extérieures lui semblaient un peu étranges et ça choquait les jeunes religieux. Il est allé directement à cet aumônier. Il s'est mis à genoux devant lui, l'a supplié d'apporter plus de respect dans la célébration de la messe, dans l'exercice du sacrement de pénitence. Et le prêtre, surpris, confondu à la vue de ce frère, qui s'humiliait ainsi devant lui, à genoux, a promis d'acquiescer à sa demande et a changé. Il était mortifié, il avait vraiment l'esprit de pénitence, mais sans masochisme. Il avait une nature bouillante et il s'excusait facilement de ses erreurs quand il y en avait à peine. Et rendre heureux par une vertu aimable et savoir tirer parti des caractères difficiles, ne pas blesser par une sèche régularité, hein, telle était la loi qu'il s'était imposée. Et chez lui, bonté et fermeté s'alliaient admirablement. Il était un formateur religieux selon l'esprit de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Il se préoccupait de tout envisager par les yeux de la foi, de ne rien faire que dans la vue de Dieu et d'attribuer tout à Dieu. C'était un homme surnaturel, qui semblait ne vivre que pour Dieu, auquel, d'après le témoignage de son directeur de conscience, il était uni, d'une façon presque ininterrompue. « J'adorerai Dieu présent au moins 20 fois par jour, dit-il. Je m'appliquerai à cette divine présence dans mes méditations, à l'entrée et à la sortie des salles, quand mes novices s'adresseront à moi pour avoir quelques conseils. » Mais il y avait des aridités spirituelles. Il dut combattre intérieurement. Mais il avait toujours gardé des manières réservées, distinguées de cette famille un peu noble, hein, à laquelle il appartenait, les de Châtillon. Et puis, la règle pour lui était toujours l'expression de la volonté de Dieu. Il était très attaché à la règle. Mais la prière était vraiment la respiration de son âme. Jamais à la chapelle on ne le vit distrait ou rêveur. Et pendant son action de grâce, après la communion, son visage était comme transfiguré, s'irradiait d'une expression céleste. À sa seule rencontre, dit-on, on pensait à élever son cœur vers Dieu. Il avait une prestation pieuse et bien articulée du chapelet et des autres prières. Il avait un talent rare pour former les jeunes à la méthode d'oraison. Que de fois on le trouvait à la chapelle, en intime colloque avec Dieu. Quel abîme de tendresse et de miséricorde pour lui était le cœur de Jésus. Il avait un respect souverain pour le Très-Saint-Sacrement. Il faisait de profondes génuflexions, des actes d'adoration. Et son recueillement dénotait sa foi en la présence réelle. Il disait de la Vierge, « Priez-la sans cesse, vous obtiendrez d'elle tout ce que vous désirez pour votre vie religieuse et elle s'empressera, la Vierge, de vous secourir dans toutes vos peines et vos difficultés. Il avait aussi une grande dévotion à Saint-Joseph. Une grande dévotion à Saint-Joseph. Alors, il y a eu un chapitre général, car le frère général de l'ordre, la congrégation, était décédé. Il dut se rendre en France, mais il a souffert d'un cancer d'intestin, et on a jugé à propos de le conduire à Paris. Il fut soigné là. Puis au début de mars, assez rétabli, il a risqué la traversée de l'océan. Mais jamais une plainte, une prière incessante habitait son cœur. Il était d'une âme dont tous les élans allaient à Dieu. Et le jeudi saint, on a procédé à l'administration des derniers sacrements. Et on a dit de lui, le spectacle de ce malade m'a fait plus de bien que ma meilleure retraite. Et pendant sa longue huitaine, pendant son agonie, on attendait son départ. Il criait, le ciel, ô Jésus, élargissez mon cœur, Jésus. Puis il disait, moi, je meurs dans mon lit et Jésus est mort sur la croix. C'est trop pour moi. J'offre ma vie pour que tous les directeurs de la congrégation soient des hommes de Dieu. La persévérance aussi des jeunes frères, afin qu'il y ait bon esprit dans les communautés. Il est mort d'une façon vraiment remarquable. Il est dit, c'est fini, je m'en vais, oh mon Dieu, je vous remercie des grâces. Je n'ai pas peur de mourir, mon Dieu, j'ai votre souvenir dans la mort. Mon Dieu, mon espérance. Vive Jésus. Oh Jésus, pardon, oh le ciel, et au revoir. Finalement, ses dernières paroles, c'est « Mon Dieu, bénissez-nous, bénissez-nous. Je vais passer mon ciel. » Il n'a pu terminer ses dernières paroles. Et en embrassant le crucifix, il a dit « Mon Dieu, je vous embrasse maintenant afin de, que vous m'accordiez la grâce de mourir en vous embrassant. » Son corps est conservé dans un magnifique tombeau à Laval, chez les frères des écoles chrétiennes. Je crois qu'on doit invoquer privément, avec foi, le frère Théophanius, des frères des écoles chrétiennes. C'est un homme pour lequel j'ai un grand respect. Il est décédé le 28 avril 1929. Je tiens à vous signaler que demain soir, mercredi 17 mars, de 19h30 à 20h au bureau de l'archevêché, il y aura une soirée, je t'en donne ma parole, une soirée sur la parole de Dieu comme lieu de ressourcement. C'est pour les agents et les agentes qui œuvrent en pastoral du baptême des petits-enfants et tous ceux et celles qui s'occupent de catéchèse. Je crois que c'est très important. C'était au bureau de l'archevêché, n'est-ce pas, au 2000 ouest de la rue Sherbrooke, métro Guy. Demain soir, à 19h30, je t'en donne ma parole, une soirée sur la parole de Dieu. Je vous signale aussi ce soir Jean Vanier à l'oratoire, on vous en a beaucoup parlé. Et je vous parlerai demain d'un livre magnifique qui a été publié. C'est un portrait de Pauline Vanier, sa mère. Je vous ai déjà parlé de la spiritualité de l'Arche, aussi de Jean Vanier. Deux livres qui sont parus chez Novalis.